Savez-vous ce que c'est qu'un chérubin ? Un chérubin, c'est un petit enfant bien sage, n'est-ce pas ? Comme tous ceux qui fréquentent aujourd'hui ce culte, ou ceux qui sont là à côté, et que nous accueillons en particulier avec plaisir aujourd'hui pendant ce culte de rentrée. Donc nous en avons plein dans l'Église. Mais ce n'est pas ça la question. Dans la Bible, où sont les chérubins et qu'est-ce qu'ils font, ces curieux personnages ? Eh bien, on les trouve à différents endroits. On les voit comme des individus mystérieux, en fait, qui ne sont même pas présentés comme des anges. Je ne crois pas, dans la Bible, non, on ne dit jamais que les chérubins sont des anges. Simplement, on voit les chérubins à certains endroits, assez peu d'endroits dans la Bible, mais néanmoins, ils s'y trouvent. Et en particulier, dans un texte qui, je dirais, définit leur fonction de la manière la plus précise qui soit. Certains ont peut-être déjà trouvé quel est l'endroit dans la Bible où l'on parle des chérubins. C'est un texte en fait assez connu, qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 22. Vous savez que Adam et Ève étaient dans le paradis. Là, ils ont voulu se passer de Dieu, c'est-à-dire ils ont voulu prendre la place de Dieu et se considérer eux-mêmes comme Dieu. Et alors du coup, ils ont été mis à la porte du paradis par Dieu pour qu'ils arrêtent de manger de l'arbre de la vie. Et voici ce que nous dit l'Écriture. Et l'Éternel Dieu dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et en manger, et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Et après avoir chassé l'homme, il mit à demeure, à l'est du jardin d'Éden, les chérubins, avec la flamme de l'épée tournoyante, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Donc ces chérubins, ils ont là un rôle que je trouve assez étonnant. Parce qu'en effet, on aurait plutôt tendance à les imaginer à l'intérieur du paradis, que comme ces individus un petit peu guerriers que nous présente la Bible en Genèse 3, 22, comme étant ces individus finalement un peu sympathiques, qui, avec des épées tournoyantes de lumière, qui essayent d'empêcher Adam et Ève d'entrer dans le paradis. Alors, quelle est exactement cette histoire ? Reprenons Adam et Ève. Donc, je vous ai dit, ils étaient dans le paradis, ils étaient heureux, ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient dans la paix. Ça, c'était formidable. Et puis, voilà que, par leur faute, ils se trouvent un peu chassés de cet état. Et en effet, vous savez que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas une histoire historique. C'est pas Adam et Ève, je ne crois pas qu'ils aient jamais existé comme les hommes préhistoriques. Mais Adam et Ève, c'est un peu l'exemple même, l'archétype, le modèle de ce que nous sommes et de ce que nous vivons nous-mêmes. Parce qu'en effet, souvent, qu'est-ce qui nous chasse, je dirais, de la paix, du bien-être, de la tranquillité, de la joie profonde ? Eh bien, ce sont souvent nos égoïsmes, le fait que nous ne sachions pas aimer, le fait que nous nous éloignons de Dieu ou de l'essentiel dans nos vies. Et donc, finalement, nous-mêmes, sans cesse, nous sommes chassés du paradis et nous sommes finalement parfois à vivre des vies qui ne sont pas toujours faciles. Et pourtant, nous aimerions bien rentrer dans le paradis. C'est vrai, ce serait formidable. Et pourquoi est-ce que nous ne rentrerions ? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas rentrer dans le paradis ? Moi, la question que je me suis posée, c'est que Adam et Ève, ils ont été mis dehors, et pourquoi ils n'ont pas essayé de revenir ? Pourquoi ils n'ont pas essayé d'entrer, d'y retourner dans ce paradis ? On a toujours considéré que c'était impossible, que c'était même pas imaginable. Alors peut-être que je suis, moi, pas bien comme il faut, mais peut-être que j'ai tort de vouloir imaginer ce qui semblerait interdit, mais je me dis que jamais Dieu n'a interdit à Adam et Ève de retourner dans le paradis. Il ne leur a pas dit « je vous défends d'y retourner ». Il les met dehors et puis il met des chérubins pour garder l'entrée. Alors maintenant, soyons intelligents et demandons-nous, si nous voulions vraiment entrer dans le paradis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, peut-être qu'il faudrait leur demander aux chérubins, ou essayer de voir comment nous pourrions obtenir d'eux qui nous laissent entrer dans le paradis. Et c'est cette question-là que je voudrais voir avec vous. Finalement, comment est-ce que nous pourrions, nous, entrer dans le paradis? Comment est-ce que nous pourrions essayer de découvrir dans notre vie un peu de paix, redécouvrir cette présence de Dieu si bienfaisante? Comment nous pourrions retrouver cette source même de vie éternelle, de connaissance et tout cela qui est dans le paradis quand nous en sommes chassés? Eh bien, quand on a besoin de passer par quelque part, il faut commencer par essayer de connaître ce quelque part. Et si vous avez besoin de vous adresser aux chérubins, essayez d'abord de tout savoir sur les chérubins et vous verrez s'il y a une chance qu'ils vous laissent passer. Alors donc, ces chérubins, j'ai travaillé pour vous et j'ai essayé de savoir qui ils étaient. Eh bien, je n'ai pas tellement avancé, pour tout vous dire, parce que c'est un mystère. Il y a d'autres anges dans la Bible qu'on connaît bien, les séraphins par exemple. On sait tout sur les séraphins dans la Bible, je vous en parlerai une autre fois. Mais les chérubins, on ne sait rien. Même les théologiens juifs les plus savants, la tradition juive, ne dit rien des chérubins. Il n'y a rien dans la Bible, rien dans la tradition juive qui passe là-dessus sans en dire un mot. Les commentateurs n'en disent rien, ni juifs, ni chrétiens. On ne sait même pas comment les interpréter. On ne sait même pas non plus l'étymologie du mot, parce que chérubin, en hébreu, ça ne veut rien dire. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas très avancé. Alors, certains disent, ah ben justement, c'est ça. C'est que les chérubins sont l'image même de l'incompréhensible, l'image même de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne connaît pas. Je dirais qu'ils sont l'image même de ce Dieu incompréhensible, de ce Dieu inimaginable, de ce Dieu dont on ne sait pas très bien d'où il vient, ni où il va, ni qui il est, ni ce qu'il signifie. Alors vous me direz, ça ne nous donne pas beaucoup d'espoir d'entrer dans le paradis, parce que si pour entrer dans le paradis, il faut arriver à comprendre qui est ce Dieu incompréhensible, ce Dieu dont on ne connaît même pas le nom, ce Dieu qui nous échappe, eh bien, on n'est pas très bien parti pour ça. Jean, d'ailleurs, dans son évangile, au chapitre 1, dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. » Ça ne nous laisse non plus pas beaucoup de chance. Mais, dit l'évangile de Jean, ah, il y a un mais. Voilà. Une chance. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, on n'y comprend rien. S'il fallait avoir une foi parfaite en Dieu pour trouver la paix en Dieu, eh bien, nous ne pourrions pas y arriver. Mais il y a un mais. Il y a donc une sorte de session de rattrapage. Et il y a une piste de secours dans ce chemin impossible vers la présence de Dieu. C'est ce mais. Alors, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jean 1, 18, mais. Mais quoi? Vous savez la solution? Eh bien, je vous la dirai tout à l'heure. Parce que revenons un peu à ces chérubins. Je ne sais pas qui ils sont, mais la Bible nous dit qu'ils ont une épée flamboyante, une épée de lumière qui tournoie. Bon, ça c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette épée flamboyante? Alors là, j'ai des idées là-dessus, parce que ce sont des symboles bibliques bien connus. En effet, l'épée, c'est le symbole de quoi? Eh bien, vous devriez le savoir, parce que j'avais fait un article là-dessus dans la lettre de l'étoile il n'y a pas très longtemps, parce que l'épée était le symbole d'un des grands réformateurs. Et en effet, l'épée, c'est le symbole de la parole de Dieu dans la Bible. Voyez comme, par exemple, dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Et donc l'épée, c'est la parole de Dieu. Et on trouve des sculptures dans le Moyen-Orient avec des divinités qui, à la place de la langue, ont une épée. Et c'est pour ça que la langue ressemble à une petite épée, effectivement. Et donc l'épée est le symbole de la langue qui elle-même est le symbole de la parole de Dieu. Bon, c'est comme ça. Ah, on avance. Parce que la parole, ça, on la connaît. Elle nous a été donnée par le Christ, par l'Évangile. Donc s'il s'agit d'une parole et d'une épée, je la connais et je n'ai pas grand-chose à en craindre. Ensuite, cette épée, elle est flamboyante. Alors là, reprenez aussi vos souvenirs d'école biblique. Et qu'est-ce qui est flamboyant dans la Bible? C'est peut-être le premier texte que connaissent les enfants, et c'est le buisson ardent. Le buisson ardent, ce buisson flamboyant qui brûle sans se consumer, et donc la flamme de feu est le symbole de la présence de Dieu. Comme lors de la transfiguration où Jésus, son visage devient tout brillant comme de la lumière, comme du feu. Et donc le feu, c'est effectivement le symbole aussi de la présence de Dieu et du visage du Christ. Ah, ben vous voyez que ces chérubins finalement ne sont pas si méchants. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une épée flamboyante, ils portent à la main la parole de Dieu, cette parole toute pleine de la présence de Dieu. Eh bien, je crois que la réponse, elle est simple. Même si on ne sait pas très bien qui est le chérubin, ça veut dire même si on ne sait pas très bien qui est Dieu, il y a au moins quelque chose que je connais, c'est sa parole. Au moins quelque chose que je connais, c'est son évangile. Même si je ne sais pas très bien si Dieu existe, il y a quelqu'un qui, lui, a existé, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y a là quelque chose par lequel je peux passer. Et donc, si je veux entrer dans le paradis, eh bien, je n'ai qu'à passer par la parole et par la présence de Dieu. Et ça nous est donné, effectivement, par le Christ et par l'Évangile. Et si on passe par cette épée tournoyante, eh bien, on peut arriver à entrer dans le paradis. Comme, vous savez, Zorro qui entre dans sa caverne en traversant une cascade qui tombe, et effectivement, on se rend compte que cette cascade, au lieu d'être quelque chose de terrifiant et qui devrait bloquer le passage, est au contraire la porte qui mène vers quelque chose d'autre. Et Adam et Ève ont été idiots, en fait, d'avoir peur de cette épée flamboyante, parce que cette parole de Dieu, pleine de lumière, ce n'est pas quelque chose de terrifiant. Et la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous empêcher d'être heureux, pour nous empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est là, au contraire, pour nous y mener et pour nous y faire entrer. Et c'est bien ça, d'ailleurs, que dit aussi l'Évangile. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit l'Évangile de Jean, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a montré. Et donc c'est vrai que Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Christ, lui, nous l'a montré. Et il suffit donc de passer par le Christ. Passer par le Christ qui a dit encore autre chose. Il a dit dans ce même Évangile de Jean, « Je suis la porte, et celui qui entre par moi, il aura le paradis, la vie éternelle. » Alors c'est une hypothèse, mais d'ailleurs c'est une hypothèse plus que sérieuse. Hein. Parce que on parle de ce jardin d'Éden dans lequel on doit rentrer. Mais je me dis, tiens, mais peut-être que Jésus serait la porte de ce jardin. Et Jésus, où est-il ressuscité ? Décidément, il y a beaucoup de colle dans mon sermon d'aujourd'hui, mais pour vous faire réviser votre Bible, à quel endroit Jésus est-il ressuscité ? Eh bien, dans un jardin. Oui, c'est ce que dit l'Évangile de Jean, dans un jardin, tiens, comme en Éden. Et quand Jésus ressuscite, les femmes le voient et ils le prennent pour qui ? Ils le prennent pour le jardinier. C'est assez intéressant. Et comme le jardinier qui garde le jardin, tiens, comme le jardinier qui garde le jardin comme les chérubins. Et donc Jésus, c'est peut-être lui, ce chérubin. On pourrait continuer, Jésus, il est mort sur quoi ? Sur une croix. Oui, mais dans la Bible, en grec, on ne parle pas d'une croix. On dit qu'il est mort sur le bois. Et comment on dit un arbre en hébreu et un bois ? Ça se dit de la même manière. C'est-à-dire que dans la Bible, il n'y a qu'un mot pour dire l'arbre, le bois et la croix. Et donc Jésus, qui est le bois au milieu du jardin, il est l'arbre de vie en lui-même. Et donc Jésus est à la fois, je crois, ce passage de celui qui permet d'entrer dans le jardin, et il est en même temps l'arbre au milieu du jardin. Et si nous écoutons sa parole, si nous passons par Jésus, eh bien nous pouvons entrer dans ce jardin. C'est tout simple, c'est tout bête, mais il suffisait d'y penser. Et Adam et Ève n'y ont même pas pensé. C'est ça qui est dramatique. Ils en ont eu peur, comme peut-être beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de la religion, ou peur de ces paroles bibliques, en se disant « ces paroles, ça va me condamner, ça va me trancher en rondelles, ça va m'empêcher d'être ce que je veux être. » Idiotie. Ces paroles ne sont pas des paroles qui nous empêchent de vivre, ce sont des paroles qui nous font vivre. Alors, la tradition chrétienne a bien eu raison de dire que ces chérubins sont des gens formidables, et gentils, et mignons, et doux, et beaux, et plein d'amour. Parce que ces chérubins sont effectivement cela. Alors en fait, on sait quand même quelque chose sur les chérubins. En fait, on sait quelque chose, c'est on a une étymologie possible, hypothétique. C'est que ça viendrait de Kerabia. Bon, je ne sais pas quelle langue, ne me le demandez pas, c'est une langue que je ne connais pas, qui veut dire comme un enfant, comme un enfant. Et c'est peut-être, c'est pour ça qu'on a représenté aujourd'hui souvent les chérubins comme des enfants. Et l'autre endroit où il y a des chérubins dans la Bible, autre endroit très important, savez-vous où ? Il n'y a pratiquement que deux ou trois endroits. L'autre endroit, c'est quand on décrit le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu sacré du Temple de Jérusalem. Et on dit qu'il y avait là une salle sacrée dans laquelle il y avait l'Arche d'Alliance et qu'il y avait aux quatre coins deux chérubins, deux statues d'enfants au visage d'or, enfin recouvertes d'or. Et ça, c'est très étonnant parce que normalement, les statues étaient absolument interdites dans le judaïsme. Et donc, il n'y avait aucune statue, sauf là. Les seules statues qui existaient dans tout le culte juif, c'était ces deux chérubins recouverts d'or qu'il y avait dans le sanctuaire du tabernacle. Deux chérubins au visage d'enfant. On trouve ça en Exode 25 et dans le deuxième livre des Rois aussi. Et c'est pourquoi j'ai pensé aussi à ce passage de l'Évangile de Marc 10 que je vous ai lu, qui nous dit, vous savez, le royaume de Dieu, il est comme pour ceux qui deviennent comme les enfants. Et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et finalement, c'est la même chose. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par le stade du petit-enfant. Ben oui, c'est bien ce qui est dit quand même, hein. C'est le Christ qui l'a dit lui-même. Il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Alors là, je vous laisse fonctionner vous-même. Vous avez plein d'idées sur les qualités essentielles que peuvent avoir les enfants et que nous risquons de perdre des qualités de capacité d'écoute, d'émerveillement, de tolérance, capacité de pardon aussi. Ça, c'est extraordinaire, la capacité d'un enfant à oublier, à pardonner, à ne pas être rancunier, la capacité à découvrir, à s'émerveiller, à apprendre, à progresser, à se remettre en cause, à changer, à être toujours en croissance, la capacité aussi à l'humilité et de savoir qu'il a besoin d'apprendre, qu'il a besoin d'un autre, comme nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'apprendre et nous pouvons toujours regarder, plutôt que de prétendre être comme des sortes de fossiles, comme des sortes de squelettes déjà prématurément morts et vieillis, qui refuseraient de bouger, qui refuseraient d'apprendre, en se contentant de son acquis, en se disant « j'en sais bien assez, j'ai mes petites convictions, je sais à peu près en quoi je crois et en quoi je ne crois pas, quant à l'Évangile, je l'ai déjà lu trois fois, ça me suffit, je connais toutes ces histoires par cœur ». Eh bien justement, il faut repasser par le stade de l'enfant. Et vous tous qui êtes grands, eh bien vous devriez tous vous réinscrire à l'école biblique. Et je pense que vous apprendriez énormément de choses et peut-être que vous trouveriez aussi ce chemin des chérubins qui mène au paradis. Pour rentrer dans l'Éden, il faut écouter la parole de Dieu, chercher le Christ, chercher les évangiles, les méditer, recevoir tout cela comme des enfants, c'est-à-dire s'en nourrir pour grandir, croître dans le Christ, pour progresser. Et alors, on peut découvrir le secret du chérubin, le secret extraordinaire que je n'ai découvert que très récemment. C'est que la phrase de la Bible, que je vous ai lue très lentement, est une phrase à double sens. C'est une phrase que l'on peut comprendre dans un sens comme dans l'autre, mais nous sommes tellement omnubilés par l'idée que le paradis nous est interdit qu'on croit tous que cette phrase nous dit que les chérubins nous empêchent d'y entrer, alors que cette phrase dit le contraire. La phrase est la suivante. Les chérubins gardent le chemin de l'arbre de la vie. Les chérubins gardent le chemin de l'arbre de la vie. Et on le comprend tous comme si les chérubins étaient des gardes armés qui empêchaient le chemin de l'arbre de la vie. Mais quand on dit « garder un chemin », en français comme en hébreu, ça peut dire autre chose. Comme on dit qu'il faut garder les commandements de l'Éternel, comme on dit qu'il faut garder finalement une doctrine, ça veut garder dans ce sens, ça veut dire être fidèle. On garde un chemin quand on suit une voie. Et ces chérubins qui gardent le chemin de l'arbre de la vie, ils ne sont pas ceux qui l'interdisent, mais ils sont ceux, au contraire, qui y marchent avec le plus de fidélité. Les chérubins sont l'exemple même de ceux qui sont dans la fidélité et dans l'obéissance à la doctrine de l'arbre de la vie, c'est-à-dire de la Bible et de la Torah. Ça s'est dit dans le livre des Proverbes que l'arbre de la vie, c'est la Bible. Voilà, vous le saurez une fois pour toutes. Et donc cette Bible, elle ne nous est pas interdite. Au contraire, elle nous est donnée et nous pouvons y accéder. Si nous suivons ce chemin des chérubins, ces chérubins qui nous ouvrent le chemin qui conduit à l'arbre de la vie et au paradis, ces chérubins qui ont pour outil, pour nous aider à y aller et non pas pour nous y interdire, ces épées qui tournoient et qui flamboient, ces épées de la parole de Dieu, de l'évangile et de la présence de Dieu, non, ces chérubins ne nous interdisent pas d'aller dans le paradis, ils nous y invitent à les suivre. Amen.